série. Bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un céréal lover
ou un cereal eaters.
Bonjour les Sérivores, nous allons aujourd'hui vous parler de la série V, une série de science-fiction créée à l'origine par Kenneth Johnson. V est considérée comme une des séries cultes des années 80 et surtout de la science-fiction. Et pour le reboot de V de 2008, c'est le créateur de la série Les 4400, Scott Peters, qui s'y est collé et a été chargé de l'écriture, de l'adaptation et qui va assurer également la production avec la Warner Bros. Donc, cette série a eu deux vies, on pourrait dire, puisque, comme on va le voir dans les anecdotes et puis le déroulement de l'émission, c'est une série qui s'est écoulée sur plusieurs années. Et d'ailleurs, David va nous raconter un petit peu ce qu'il sait de la série.
Et oui, c'est une série qui a été produite, en fait, pour la première mouture de 1983 à 1985 et pour la plus récente de 2008 à 2009. C'est une série qu'on pourrait classer, comme tu l'as dit, comme science-fiction. La série est aussi composée en plusieurs parties. L'intégrale de la série, qui a été remaniée en France, se compose à la base d'une première mini-série V, qui date en fait de 1983. Elle est composée de deux épisodes de 120 minutes et 90 minutes, suivie d'une autre mini-série V, La Bataille Finale, en 1984, en trois parties de 90 minutes. Et enfin, la série V, aussi sorti en 1984, qui compte 19 épisodes. Et puis enfin, le reboot de la série V en deux saisons, soit 22 épisodes de 42 minutes qui se passent dans la fin des années 2000.
Comme on peut le voir, ça a été même des téléfilms, on pourrait dire, vu la durée. Hein, c'était vraiment deux mini-séries pour le départ. Et puis, ça a tellement bien marché qu'on a lancé une série qui a duré quand même 19 épisodes. Mais qui s'est achevé, parce qu'au départ, on aurait dû avoir 41 épisodes, mais la série s'est essoufflée. Et ce qui explique mais quand même que derrière, on a eu le reboot des années plus tard, parce que c'est vraiment une série qui a été ancrée dans l'esprit de pas mal de gens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de séries de science-fiction. On avait le droit à Star Trek, des séries comme ça, mais vraiment, V a allié à la fois l'horreur et la science-fiction, on va pouvoir le voir. Alors, le synopsis de la série... Alors que le journaliste Mike Donovan filme des soldats en plein combat au Salvador, apparaissent d'un coup dans le ciel, de nombreux endroits du globe, des gigantesques ovnis venus du système Sirius qui est situé à 8,7 années-lumière exactement, de notre belle planète Terre. Donc après être entrés en contact avec des émissions radio, ils conviennent d'un premier contact direct avec le secrétaire général de l'ONU. Ces extraterrestres semblent avoir une forme humaine et déclarent être venus en paix et ils décident de s'installer peu à peu au milieu de la population. Ils déclarent qu'ils veulent partager leurs connaissances en échange des produits chimiques terrestres censés régler les problèmes environnementaux sur leur planète. Mais leurs intentions en fait sont carrément différentes. En effet, les visiteurs pompent en secret toute l'eau de la Terre, car leur planète d'origine a vraiment très peu d'eau et commence à en manquer. De plus, ce qui n'est pas le plus ragoûtant, ce sont des reptiles, en fait, humanoïdes, qui considèrent les humains comme de la nourriture. Aussi, ils veulent remplir leur garde-manger de millions de terriens. Hein, et peu à peu, des organisations secrètes de résistants avec à leur tête Mike Donovan et le docteur Julie Parrish, aidés par des soldats visiteurs rebelles, qu'on appelle la cinquième colonne, vont s'organiser pour un combat de titans, et combat qui va être loin d'être gagné, parce qu'en face, il y a une redoutable officier supérieur des envahisseurs qui s'appelle Diana, qui veut à tout prix soumettre l'humanité.
Et elle n'est pas commode.
Oh, c'est moins qu'on peut le dire. Et puis, bien, le synopsis du reboot. Donc, en 2009, le monde se réveille alors que 29 gigantesques vaisseaux survolent à nouveau les plus grandes villes. Les extraterrestres et leur leader, Anna, déclarent venir en paix, mais certaines personnes ne leur font pas du tout confiance et l'agent spécial Erica Evans découvre que ces aliens ont infiltré depuis longtemps le gouvernement et les sociétés privées afin de prendre le contrôle de la planète. Erica rejoint un mouvement de résistance dans lequel est présent Ryan, lui-même un alien, mais souhaitant sauver l'humanité. De son côté, Tyler, le fils d'Erica, est séduit par Lisa, une extraterrestre, et ne jure que par les V. Donc vous voyez, les deux séries, comme on va pouvoir le voir, se suivent avec des années d'écart, mais c'est toujours sur ce thème de l'envahissement. Et je vous propose d'écouter le générique de V. Principaux et les acteurs qui les interprètent. Alors, dans la première série, c'est Mark Singer qui a joué Mac Donovan, le co-chef de la Résistance. Alors lui, comme on a pu le voir dans le synoptisme, c'est un ancien caméraman de télévision et grand reporter. Sa complice, c'est Faye Grant, qui joue Julie Parrish, la fondatrice de la Résistance, donc avec Mac Donovan. Et elle, c'est une ancienne étudiante en médecine. Ensuite, eh bien, tu nous en as parlé tout à l'heure.
Et oui, c'est Jane Bedler qui joue Diana, la scientifique commandant d'une flotte d'hommes lézards extraterrestres et prédateurs qui envahissent la Terre, et elle n'est pas commode du tout.
Un vieux de la vieille qu'on trouvera dans beaucoup de films, Michael Ironside, qui joue Am Tyler, ancien agent de la CIA et tueur à gages de la Résistance. Donc Michael Ironside, on l'a pu le voir, entre autres dans Starship Trooper, hein, c'était le fameux professeur. Et puis il joue tout un tas de rôles de méchants, de second rôle. Il est toujours excellent.
Il y a aussi Richard Heard qui joue John, le commandant chef des visiteurs, et Robert Englund qui joue Willy, membre de la Résistance des visiteurs.
Oui, ce nom vous dit quelque chose, on en parlera tout à l'heure dans les anecdotes. Oui. Et puis, bien, les acteurs principaux de la série des années 2000, c'est Elizabeth Mitchell, qui va jouer Erica Evans, qui est un agent du FBI, membre d'une unité antiterroriste. Elle est séparée de son mari et mère d'un fils adolescent. Elle est clairement contre les visiteurs, à l'inverse de son fils, dont on a parlé tout à l'heure.
Il y a aussi Morena Baccarin qui joue Anna, la commandante suprême des visiteurs. Sa touche d'humanité ne la rend pas moins dangereuse pour autant.
Oui, elle est un petit peu Diana, mais en plus soft d'apparence. Mais
au fond...
voilà. Ensuite, on a Maurice Chestnut qui joue Ryan Nichols, qui est un visiteur qui est présent sur Terre depuis plusieurs années. Il se fait passer pour un humain et essaie de déjouer les plans de ses propres compatriotes visiteurs. C'est un gentil. Et Maurice Chestnut, on l'a pu le voir dans pas mal de second rôle au cinéma et dans des séries.
Il y a aussi Logan Huffman qui joue Tyler Evans, fils d'Erica, qui est séduit aussi par Lisa, une jeune femme visiteur qui s'engage comme ambassadeur de la paix auprès d'eux et devient pilote de navette.
Donc elle arrive à le retourner, comme on dirait. Et puis on a Laura Van Der Voort qui joue Lisa, justement la jeune et jolie extraterrestre qui réussit à séduire Tyler dès leur première rencontre. Et c'est la fille d'Anna, la grande méchante, commandant suprême des V. Donc vous imaginez l'embruglio qu'il va y avoir. Alors les anecdotes autour de la série, il y en a un paquet. Alors la mini-série d'origine a fait ses débuts aux États-Unis sur la chaîne NBC le 1er mai 1983 et Kenneth Johnson, le créateur de la série, a déclaré que l'histoire a été inspirée par le roman It Can Happen Here, ça peut arriver ici, qui avait été écrit en 1935 par Sinclair Lewis. En outre, plusieurs scènes du pilote d'origine ressemblent à la pièce de théâtre « Grand-peur et misère du Troisième Reich » de Bertolt Brecht, hein, le célèbre écrivain allemand. De plus, la nouvelle de Damon Knight, « Comment servir l'homme, To Serve Man », précédemment adaptée d'un épisode de la quatrième dimension, possède un thème similaire des extraterrestres faussement amicaux qui élèvent les humains pour en faire de la nourriture.
Ça donne faim tout ça. Dans les bonus du DVD de la mini-série, Johnson révèle que V a été initialement conçu comme un simple thriller politique retraçant la montée d'un mouvement fasciste aux États-Unis. NBC, quant à elle, est intéressée par une série de science-fiction afin de capitaliser sur le succès de films à la Star Wars. L'histoire est une allégorie des événements de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc l'histoire de V, en effet, s'inspire clairement des exactions des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et de la résistance qui s'en suivit. Le premier épisode commence d'ailleurs par « Ce film est respectueusement dédié à l'héroïsme des résistants, passé, présent et à venir », écrit sur fond noir. Donc la propagande, les affiches, les messages télé et l'emblème des visiteurs ressemblent très fortement à une croix gammée et les jeunes humains embrigadés, la traque et le confinement d'un type de personne en particulier, ici les scientifiques qui seraient probablement les premiers à découvrir la vraie nature des visiteurs, sont autant de références au nazisme.
Kenneth Johnson a déclaré que l'histoire était inspirée en fait du roman It Can't Happen Here, dont tu parlais tout à l'heure, qui date de 1935 et qui a connu un regain d'intérêt aux États-Unis après l'élection de Trump, de Sinclair Lewis. Le titre de la série et les V tagués sur les affiches de la propagande des visiteurs sont directement inspirés d'un événement réel, la campagne des V, une opération lancée par Victor Delavelle, ministre belge depuis Londres où il était réfugié. Il a appelé les Belges francophones et néerlandophones à utiliser le signe de ralliement V pour victoire en français, Vrijheid, soit liberté en néerlandais et donc victory dans la série. À placarder partout pour faire comprendre à l'ennemi qu'on l'attendait au tournant, l'opération s'est répandue dans toute l'Europe dans la série. La même musique est utilisée que celle qui a été élaborée pendant la guerre avec une interprétation de la lettre V et en morse et la 5e symphonie de Beethoven comme hymne à la libération.
Comme quoi, vous voyez, il y a un étrange mélange de passé, de futur. Et ça, c'est vraiment bien aussi de s'être inspiré, d'avoir fait une allégorie autour de cette invasion nazie et tous les problèmes. Alors, avant que la série ne soit diffusée, une campagne de pub, d'ailleurs, avait été faite avec des affiches de propagande des visiteurs, « The visitors are our friends », et elle a été lancée dans le métro américain. Et quelques temps plus tard, les affiches ont été taguées avec des énormes V, tout comme dans la série, donc ça a vraiment marqué les gens.
Plus tard dans la série, le journal télévisé du réseau de la Résistance rapporte l'union des populations blanches et noires d'Afrique du Sud afin de lutter contre les visiteurs. En effet, la série a été réalisée en 1984 alors que l'Afrique du Sud était toujours sous le régime de l'apartheid. Lors de la diffusion à la télévision de V en Afrique du Sud, des dizaines de V rouges sont apparues dès le lendemain sur les murs de la capitale notamment.
Donc, vous voyez, hein, comment d'une fiction on peut partir à la réalité, enfin, d'une réalité, partir à la fiction pour revenir à la réalité, c'est vraiment, comme je dis, c'est une série culte, non seulement pour la science-fiction, mais aussi pour les mentalités et faire changer les mentalités. Dans la première partie du premier épisode, à 21h40, lorsqu'une navette des envahisseurs atterrit, une fanfare interprète la musique de Star Wars. Donc un clin d'œil au film sorti quelques temps auparavant, et la lettre V correspond à l'initiale de Victoire, Victoire en anglais, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est le lien avec le V rouge que dessinent les Terriens, les signes de la main bien connus, avec deux doigts en forme de V, effectués par certains personnages, hein, comme Churchill. Ces deux symboles évoquent la victoire des Terriens sur l'emprise des extraterrestres, et devient bien sûr le symbole de ralliement de la cause résistante. Morena Batarin, qui joue le rôle d'Anna, le leader des visiteurs, dans le reboot de la série. Donc on la revoit revenir. Hein, que c'est une des actrices qu'on peut voir. On verra qu'elle n'est pas la seule dans les deux séries, c'est-à-dire la série originelle et le reboot.
Jane Bedler, donc Diana, dans l'ancienne série, est présente aussi dans le casting de la saison 2 dès l'épisode 1. Elle y joue la mère d'Anna. De même, on y voit Mark Singer apparaître dans le dernier épisode de la saison 2, dans le rôle de Lars Tremont, qui est membre d'une organisation top secrète composée de chefs militaires et de personnalités politiques du monde entier qui suspectent depuis longtemps les V de ne pas être venus en paix.
C'est comme quoi, c'est marrant, on fait du recyclage, mais on les utilise dans d'autres rôles, donc c'est assez, assez sympa. Alors, pour l'époque, la première mini-série a été une des plus chères de l'histoire de la télé américaine, puisqu'on a quand même dépensé un budget de 8 millions de dollars, et qui a finalement explosé à 13 millions de dollars. Donc, pour l'époque, bon, c'est vrai que maintenant, quand on voit des grosses productions, on rigolerait, mais c'était déjà... Et en plus, pour une série télé, maintenant, c'est courant. Game of Thrones, Viking, Walking Dead, là, on met le paquet, et j'en passe et des meilleurs. Mais là, c'était vraiment extraordinaire au niveau financier.
Mike Donovan a été casté seulement 3 jours avant le début du tournage, et Jane Bedler, qui jouait donc la stoïque Diana, seulement 1 mois après le début. Comme elle n'apparaissait pas, en fait, dans beaucoup de scènes au début, ils ont commencé sans avoir personne pour le rôle, en fait.
Donc elle a pris le train en marche, la navette en marche. Hein, c'est comme les envahisseurs, elle arrive juste...
C'est ça. Elle était bien dans son rôle, déjà.
Voilà. Alors, Dominique Dune, la jeune actrice prometteuse qui devait jouer le rôle de Robin Maxwell, a été tuée en 82 par son ex-petite amie chez elle, en pleine répétition avec David Packer, pour son futur rôle dans V. Donc l'ex est arrivé chez Dune et l'a étranglée et jusqu'à la plongée dans le coma. Elle est morte 5 jours plus tard. Et quelques temps avant, Dune avait joué le rôle d'une adolescente battue dans Hill Street Blues et n'avait pas eu besoin de beaucoup de maquillage parce qu'elle portait encore les traces de son petit ami. Donc c'est un petit peu un hommage, cette série, à cette actrice qui aurait dû justement participer à cette série et qui malheureusement est décédée trop jeune.
Les effets spéciaux coûtaient très cher, surtout à une époque, et parmi eux, ceux des pistolets laser qui plombaient le budget à 1000 dollars pour chaque tir. Pour limiter la casse, il a été décidé de munir la résistance d'armes normales.
Alors, les portes coulissantes dans les vaisseaux étaient entrouvertes manuellement par des techniciens à l'aide des cordes et de câbles. Coucou Star Trek, puisque c'était exactement le même procédé, et puis ça coûtait moins cher.
Les vaisseaux construits à taille réelle étaient modulables et pouvaient être différents selon les besoins, ce qui gagnait beaucoup de temps et d'argent.
Et oui, on voit que c'est quand même... Déjà, quand on
c'est quand même le nerf de la guerre. Hein.
Oui, et puis quand on voit qu'ils ont dépensé 13 millions, ouais. et en utilisant quand même des subterfuges, hein, parce que donc on imagine combien ça aurait coûté si on avait été encore plus gourmand. Alors, le premier lézard qui se fait arracher la peau par Mike Donovan avait, en plus du maquillage, une fausse langue de lézard dans la bouche, actionnée à distance par Kenneth Johnson, le créateur de la série, lui-même.
L'uniforme brun de Daniel Bernstein est une référence au SA, l'organisation paramilitaire qui a aidé Hitler à accéder au pouvoir et qui ont donc été surnommés les chemises brunes.
Et oui, les SA, hein, l'armée secrète d'Hitler, on peut dire, et donc encore une référence au nazisme. Donc après la première mini-série, le créateur Kenneth Johnson, il a décidé de quitter le projet parce qu'il n'était pas en accord avec les choix créatifs. Et sa contribution est quand même créditée sous le pseudo de Lillian Visser par la suite.
Quelques morceaux de musique composés par Dennis McCarthy ont été utilisés ensuite dans Star Trek Next Generation.
Comme quoi, on recyclait même après. Ça coûte cher, donc il faut vraiment recycler. Alors, un projet de film, adaptation de la première mini-série au cinéma, aurait dû être réalisé par Kenneth Johnson, justement, le créateur original de cette série, et les mêmes acteurs principaux auraient repris le rôle respectif, donc Mark Singer, Faye Grant, Jane Badler, Robert Englund notamment. Et le film aurait été probablement inspiré du roman V, The Second Generation. Il n'aurait pas pris place après l'épisode Le Retour de la série, ni après la bataille finale, mais directement à la suite de la mini-série originelle. Mais Kenneth Johnson étant parti, ça a bouleversé un peu les plans.
Mark Singer est un acteur canadien qu'on a pu voir dans de nombreux films et séries comme la saga de Dar l'Invincible et Beastmaster. Il refera une apparition dans le reboot de la série de 2008 où on a pu le voir dernièrement aussi dans la série Arrow.
Donc c'est quelqu'un qui a une petite carrière au ciné assez sympathique. Dar l'Invincible, c'était de l'héroïque fantasy avec des animaux, et Beastmaster, il reprenait la série TV, et c'est vraiment là où, disons, la série V et Dar l'Invincible et la série Beastmaster sont vraiment ses principales contributions au grand et au petit écran. Et puis, je te laisse, parce que Diana, c'est ta favorite.
Faye Grant, alias le Docteur Parrish, est une actrice américaine qu'on a pu voir aussi dans de nombreux films et séries. Les Contes de la Crypte, Ralph Super-Héros, Calendrier Meurtrier. À l'origine, elle aurait dû jouer le rôle de Diana. Le maquillage de Diana, la visiteuse, nécessitait quand même 4 heures.
Donc, tout ça pour être déchiré par moment. Puis là, avec la fameuse scène, on peut en parler maintenant, où on découvre qui sont vraiment les visiteurs, sans spoiler de trop. C'est qu'à un moment, bien, on voit cette belle jeune femme qui ouvre sa bouche de manière gigantesque et elle mange un rat de laboratoire en direct. Et je me rappelle, à l'époque, ça avait choqué plus d'une personne parce qu'on parle, on avait l'habitude de voir des extraterrestres humanoïdes. Et là, on passe vraiment dans le fantastique et l'horreur pure. En parlant horreur pure, eh bien, c'est Robert Englund, l'horrible Freddy Krueger de la saga horrifique des Freddy Griffes de la Nuit et spécialiste des films d'horreur qui joue ici un gentil. C'est lui, le gentil Willy, le gentil visiteur. Donc, quand on voit la carrière qu'il a fait après au cinéma dans les films d'horreur, c'est marrant qu'il lui ait donné le rôle du gentil visiteur.
Robert Englund s'est blessé pendant le tournage d'une scène à l'arrière d'un van, les acteurs étant brincalés dans tous les sens quand la porte arrière s'est ouverte et Englund a été éjecté et s'est ouvert le front. Michael Ironside, Ham Tyler, qui a lui-même une sacrée cicatrice sur le visage, l'a emmené direct chez un chirurgien esthétique qui lui a donné des antidouleurs et du whisky. C'était le chirurgien qui s'occupait aussi de Michael Jackson, hein, on vous dit ça comme ça. Et il lui a fait aussi 37 points de suture dont il n'a pas gardé les traces, heureusement.
Mais bon, comme il avait tourné après des films d'horreur, ça n'aurait pas été trop gênant. Freddy aurait eu une cicatrice de plus sur le visage. Déjà qu'il est brûlé, ça ne nous aurait pas trop gêné, je pense. Alors, la série n'a pas de fin. Le dernier épisode de la série 1 s'achève en fait en plein suspense, insistant. Et puis ça nous laisse, tous les spectateurs sont restés, moi-même le premier, sur leur fin. Les producteurs avaient espéré qu'un suspense final et l'existence d'un scénario déjà prêt allaient inciter la chaîne à poursuivre la production de nouveaux épisodes. Eh bien, peine perdue, puisque, étant donné qu'ils ont perdu beaucoup, je pense, d'argent... dans l'investissement. Après, c'est vrai que c'est devenu culte, cette série, mais de passer un budget de 8 millions à 13 millions, je pense que ça les a échaudés pour continuer la série.
La série a vu le jour en dépit des avertissements de Kenneth Johnson, qui trouvait le sujet donc surexploité. L'avenir lui donnera même raison. Entre le manque de moyens et l'abandon des thèmes chers à V, la coercition, la véritable identité des visiteurs, la lutte souterraine de la résistance. La série adopte donc un style soap-opéra de l'espace. Au fil des épisodes, les fans sont de moins en moins nombreux à suivre le show, précipitant la fin de la série.
Voilà, en fait, les soap-opéras, c'est Star Trek, Star Wars. Voilà, donc ils ont voulu un petit peu se fondre dans le moule, et donc ils ont perdu leur originalité. Et donc, les fans de la première heure ne sont pas retrouvés, et puis les producteurs non plus. Ils n'ont pas voulu continuer à mettre tout cet argent sur la table.
V, The Second Generation, écrit par Kenneth Johnson en personne et publié en 2008, reprend la trame en fait de la première mini-série en ignorant les événements de la série hebdomadaire ainsi que ceux de la bataille finale. L'intrigue prend place après 20 ans d'occupation continue de la planète des visiteurs, une résistance exsangue, pratiquement exterminée. Reçoit l'aide inattendue d'une race se déclarant l'ennemi mortel des visiteurs. Il s'agit en fait d'une race évoquée dans V et à laquelle les résistants envoient à tout hasard un signal à la fin de la partie 2.
Alors, en 86, Ocean Software va réaliser même un jeu vidéo d'action pour ZX Spectrum 10, Amstrad CPC et Commodore 64, qui étaient les marques phares à l'époque. On dirait maintenant une PlayStation, les dernières marques de jeux, mais à l'époque, c'était vraiment... ça faisait un tabac.
Mais moi, j'ai joué au jeu V sur Amstrad CPC 6128. Voilà.
Donc, vous voyez...
Preuve.
Vous voyez que David... a suivi et était un fan de V.
Si Kenneth Johnson, créateur de la première version de V, est crédité au générique du reboot d'ABC, ce dernier s'est battu pour que ce soit le cas. Warner Bros. Soutenait en effet que la nouvelle série était très différente de l'original. La Writer Guild of America a finalement rendu un arbitrage en faveur de Johnson.
Oui, c'est normal, c'était le créateur. Et on sait que les Américains sont très forts pour défendre leurs droits. Ils ont des centaines et des centaines d'avocats, et donc c'était quand même normal qu'il touche une partie des bénéfices du reboot. Alors, le rôle d'Anna, tenu par Maureen Baccarin, a failli être confié à Famke Janssen, Jean Grey dans la trilogie des X-Men, et puis James Bond Girl, on a pu le voir récemment dans un de nos cinéphages, et celle-ci a finalement refusé la proposition, et c'est donc Erica Evans, incarnée par Elizabeth Mitchell, qui aurait pu échoir aussi ce rôle de Lucy Lawless, Xena la guerrière, dont on a parlé aussi série. Et puis Ash contre Evil Dead, c'est elle qui joue aussi la méchante. Mais l'ex-interprète de Xena, elle a aussi décliné la proposition, puisqu'elle venait tout juste de s'engager sur un autre projet qu'on a aussi évoqué ici, la super série Spartacus.
Très très bonne. Si la distribution de V compte plusieurs têtes bien connues du grand public, d'Elisabeth Mitchell à Scott Wolf, en coulisses il y a aussi du beau monde. Scott Peters, les 4400, Rock S. O'Bannon, Farscape, Jeffrey Bell, Angel ou encore Scott Rosenbaum, Chuck, sont crédités au générique de la série en qualité de scénariste producteur.
Co-créateur de la série Les 4400, le scénariste Scott Peters a retrouvé aussi des visages familiers sur le tournage de V. Joel Grech, qui incarne le père Landry, et Lena Voigt, qui joue le docteur Pitchman, incarné en effet Tom Baldwin et Wendy Paulson dans la série 4400.
Morena Paccarine, Anna et Alan Tudyk, Dale Maddox, avaient déjà travaillé ensemble avant de se retrouver sur le plateau de la série d'ABC en 2002 sur le tournage de l'unique saison de Firefly. Tous les deux étaient en effet des acteurs régulier du show de Josh Whedon. La première prêtait ses traits à Inra et le second incarnait Wash.
Donc des habitués des séries de science-fiction. Alors si le chef des visiteurs et le leader de la résistance de la série des années 80 apparaissaient dans la saison 2 de la nouvelle version, ils ne reprennent pas les mêmes rôles pour autant, puisque Jeanne Badler incarne un personnage qui a le même prénom, mais se révèle assez différente. La nouvelle Diana a voulu faire la paix avec les humains, ce qui n'était pas le cas dans la série originale.
Ah, non.
Et Mark Singer, lui, comme on l'a dit tout à l'heure, est Lars Tremon, un membre d'une organisation secrète, qui lui prépare une attaque contre les visiteurs. Et donc, par ses actions, il rappelle un peu le rôle qu'il jouait dans le rôle de Mike Donovan, autrefois, dans la première série.
À la base aussi, la deuxième saison devait compter 13 épisodes, mais ABC a finalement fait marche arrière pour n'en commander que 10.
Lorsque le reboot de V arrive sur les écrans US, un certain nombre d'observateurs ont interprété le programme comme une gigantesque allégorie à la présidence d'Obama. La raison, les visiteurs utilisent beaucoup de mots comme espoir, changement, au centre de la première campagne du président démocrate, et ils offrent aux terriens une mutuelle universelle au cœur des projets de l'administration Obama. Donc exactement le même genre de projet que Obama voulait mettre en place, et la production, bien sûr, a démenti.
Un clin d'œil à Alien contre Predator dans l'épisode 8 de la première saison. Lors de la conférence des chefs d'État à Genève, le public attentif peut apercevoir furtivement que la plaque d'un des délégués est gravée au nom de Weyland Yutani Corp, une société fictive dont le nom renvoie à deux personnages de la saga, Alien versus Predator.
Voilà, la boucle est bouclée au niveau des anecdotes, il y en aurait encore pas mal je pense, mais vous avez vu pourquoi cette série est devenue culte, non seulement dans les années 80, mais ensuite dans les années 2000, et puis on en parle encore, c'est vraiment une des séries de science-fiction les plus réussies par le petit écran. Eh bien, David, peux-tu nous passer un petit extrait de la série ?
Allez.
Notre planète a de sérieuses difficultés avec son environnement, beaucoup plus graves que les vôtres. Nous en sommes à un point où nous ne pourrions plus survivre si vous ne nous prêtiez assistance. Il y a certains produits chimiques et certains composés que nous devons absolument fabriquer. Ce n'est que de cette façon que nous sauverons notre civilisation. Vous pouvez nous aider à les fabriquer. Et en retour, nous partagerons volontiers avec vous tous les fruits de notre savoir.
Inimaginable.
Ouais.
Unité de transport 14, préparez-vous pour l'opération de délestage. Unité de transport 14, préparez-vous pour l'opération de délestage.
Comme d'habitude, le plus c'est les originalités de la série. Eh bien, j'ai mis une des premières séries TV SF rares à l'époque, parce que, bah oui, on avait eu Star Trek, on avait eu La Quatrième Dimension, mais là, c'est vraiment une série tout à fait dans l'air de son temps, comme on disait tout à l'heure à la Star Wars, et puis ça avait captivé... le fait de mettre des aliens avec un petit peu un visage humain en apparence... Et les effets spéciaux dont on a parlé, hein, on a vu que même si des fois c'était un peu tiré de fait de briques et de broc, mais derrière ça.
Mais ça passait bien en fait.
Ça passait bien. Et le comme le coup de faire de la résistance, oui, avec des armes simples, ben c'était la réalité qui se passerait. C'est-à-dire que on voit pas pourquoi des humains des années 80 auraient tiré avec des sabres laser alors que c'était pas encore inventé. Ensuite, eh bien des héros féminins et masculins aussi intenses. Hein. Déjà, le couple d'acteurs principaux. Les méchants, c'est pareil. On a des méchants hommes, des méchants femmes. Donc, il y avait déjà de la parité dans cette série et pas des seconds rôles pas importants comme il y avait beaucoup dans les années 80. Hein. Beaucoup de rôles de faire-valoir. Non, là, c'est vraiment des héros, aussi bien chez les gentils que chez les méchants, assez importants des deux côtés. Alors, l'allégorie sur le danger du fascisme et des États totalitaires, là, on en a parlé tous les deux tout à l'heure. En effet, on voit que ça, non seulement c'était inscrit dans le passé, mais aussi dans le présent de l'époque de 84, avec la lutte anti-apartheid. Et on voit que c'est le genre de série qui est utile. Historiquement, ça rappelle aux gens, attention au danger du totalitarisme, ce qui peut arriver. Hein. On sait que en cette belle période d'élection, on ne sait pas où on va aller après. Et on voit que c'est bien de regarder un petit peu dans l'histoire, avant de voter, de regarder un petit peu les tenants et les aboutissants de l'histoire. Après, moi, j'ai mis aussi des bons acteurs et un scénario qui se tient, surtout pour la première série.
Carrément, surtout pour la première.
La deuxième, on sent qu'il y avait une envie, un engouement de repartir. C'est pas mal, mais elle était plus dans l'air du temps et un petit peu moins contestataire, j'ai trouvé. Mais ouais. Bon, après, elle est bonne quand même. Et puis, les effets spéciaux avaient évolué. Et puis, bien, les reptiliens déguisés en humains en tant qu'envahisseurs, j'ai bien aimé. Et la fameuse scène dont on a parlé avec le rat qui se fait avaler là, par la Diana, ça a choqué. Je vois en coulisses des personnes qui ont vu cette émission et qui s'en souviennent encore. On en a parlé en off tout à l'heure. Et je pense que ça sera un des moments qui restera gravé dans la mémoire des auditeurs et puis des téléspectateurs. Alors, le moins de la série, j'ai mis des effets spéciaux un peu kitsch pour la première série, certains.
Ouais, mais ça passe. Enfin, franchement, moi, j'ai pas trop accroché la deuxième, j'ai moins accroché, tu vois. Et alors que la première, moderne, franchement, j'ai trouvé ça sympa et j'en ai revu il y a pas longtemps. Franchement, pour l'époque, je trouve que c'était vraiment bien fait, quoi.
Et puis, un gros problème à une série sans réelle fin.
Alors ça,
qui nous laisse sur la fin.
Ça, c'est le début des séries qui n'ont pas de fin. Et ça, c'est tellement frustrant.
Cette transition avec une deuxième série qui, elle, par contre, aurait pu être un enchaînement. Et en fait, non, on n'a pas eu cette transition. Justement, on peut s'y perdre un peu avec le fait d'avoir des acteurs qui reviennent, mais dans des rôles différents. On aurait peut-être aimé les voir garder un petit peu leur rôle et avoir évolué derrière. Mais bon, ça, c'était qu'un vœu pieux et ça ne se produira pas, malheureusement. Alors, si vous avez aimé, comme d'habitude, j'ai mis La Guerre des Mondes, les films et les adaptations en série télé. Hein. Récemment, on en a eu deux. Ensuite, on a eu Falling Sky, Torchwood, oui. Defiance, qui était pas mal, justement, avec la cohabitation d'extraterrestres et d'humains, après une guerre entre les deux. Resident Aliens, Roswell, aussi récemment. Les Envahisseurs, la série TV dont on avait parlé ici dans Cérivore. Et puis, une petite note humoristique, je sais que c'est une des séries favorites à David.
Ah, tout de suite, ça y est.
Alf, la série humoristique, on a un gentil extraterrestre.
C'était marrant, quand t'es jeune, c'est rigolo.
Et puis, nous allons passer au coup de cœur Cérivore pour terminer.
Oui, je vous sens chaud pour le coup de cœur.
Eh bien, j'ai mis Reservation Dog, une série actuelle, 2021. Une série qui suit la vie de quatre adolescents autochtones de l'Oklahoma rural, alors qu'ils passent leur journée à commettre des petits larcins et à combattre dans le but de se rendre en Californie. Ils essayent de se faire un peu d'argent de poche. Eh bien, Reservation Dog est une série télévisée assez originale, comique, créée par Sterling Ario et Taika Waititi pour FX Productions. Et puis, fait à noter, et c'est ça qui est très intéressant, il s'agit d'une première notable en le fait qu'elle présente tous les scénaristes et réalisateurs sont des Amérindiens, ainsi qu'une équipe de distribution et des productions presque entièrement autochtones américaines. Donc, j'ai vu le premier épisode. Et
je n'ai pas vu, mais par contre, j'avais vu le synopsis et je me suis renseigné parce que j'avais vu un petit documentaire là-dessus. Et c'est à voir. Je pense que c'est à voir aussi. Ouais, j'irai voir ça.
Voilà, donc on vous le conseille. Hein, on est là aussi à Cérivore pour essayer de trouver des petites pépites. Eh bien, je vous conseille d'aller voir chercher. Vous allez le trouver facilement, Reservation Dog. Et pour terminer, un petit générique de Generation Dog.
Go like this. listening to K-49, Territory Jam. Wait,
just... She said this party's whack with your back on the wall. That's why this party's whack, cause your back's on the wall. Do something.
Bill, bro.
Bro.
I thought you were a gangster.
I am.
Whoa, not quite
yet. You said this party's back with your back on the wall. You said this party's back with your back on the wall. That's why the party whack, cause your back's on the wall. Just move some, do some. Just move some, do some.
Keep reservations, dog. It ain't no playing, dog.
Yeah. That's what I'm talking about.
So you got any plans today, or are you...
Yeah, I think I should be going. I got another vision to do.
Et à bientôt, maintenant, pour un nouveau Cerivore. Bye bye.
Bye.
Série, maintenant choisissez votre camp.
Devenir un serial lover
ou un serial eaters.